Chapitre 1. Plaine d'Ilium.
La rage.
Chante, ô muse, la rage d'Achille, le fils de Pélée, meurtrier, tueur d'hommes, promis à la mort. Chante la rage qui aux Achéens coûta tant de braves et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes pleines de joie et de vie. Et tant que tu y es, ô muse, chante la rage des dieux eux-mêmes, si capricieux et si puissants sur leur nouvel Olympe, et la rage des post-humains, bien qu'ils aient été emportés par la mort, et la rage des quelques vrais humains qui subsistent, bien qu'ils soient devenus vains et inutiles. Et pendant que tu chantes, ô muse, chante aussi la rage de ces êtres pensants, conscients, sérieux mais pas vraiment humains, qui rêvent sous les glaces d'Europe, meurent dans les cendres sulfureuses d'Io, et naissent dans les replis glaciales de Ganymède. Oh, et chante-moi, ô muse. Chante ce pauvre Hockenberry ressuscité contre sa volonté, feu Thomas Hockenberry, PhD, Hockenbush pour les intimes, des intimes depuis longtemps retombés en poussière sur un monde depuis longtemps abandonné. Chante ma rage, oui. Ma rage, ô muse, si petite, si insignifiante soit-elle comparée à la colère des dieux immortels ou au courroux d'Achille, tueur de dieux. Réflexion faite, ô muse, ne me chante rien. Je te connais. J'ai été ton esclave et ton serviteur, ô muse, ô incomparable salope. Et je n'ai aucune confiance en toi, ô muse. Vraiment aucune. Si j'accepte, à contre-cœur, d'être le cœur antique de ce conte, alors c'est à moi de choisir où il commence. Il commence ici. C'est un jour pareil à tous ceux qui se sont succédés durant les 9 ans ayant suivi ma résurrection. Je me réveille dans les baraquements de la Scolie, ce lieu de sable rouge, de ciel bleu et de grandes têtes de pierre. Je reçois la convocation de la muse. Je me fais renifler par les redoutables cerbérides. J'emprunte l'escalator de cristal de la face est pour gravir à grande vitesse les 26 000 mètres me séparant des sommets herbus d'Olympos. Et, une fois que je me suis présenté dans la villa vide de la muse, je reçois le compte-rendu de l'équipe précédente. J'enfile ma morphotenue et mon impacto-armure. Je glisse le taser à ma ceinture et je me técue dans la plaine d'Ilium alors que tombe le soir. S'il vous est arrivé d'imaginer le siège d'Ilium, activité qui fut la mienne pendant plus de 20 ans, j'ai le regret de vous dire que votre imagination n'était probablement pas à la hauteur de la tâche. La mienne ne l'était point. La réalité est bien plus merveilleuse et bien plus terrible que ne nous la laisser entrevoir la haie aveugle. D'abord, il y a la cité Ilium, Troie, l'une des plus grandes métropoles fortifiées du monde antique. 3 bons kilomètres la séparent de la plage où je me tiens, mais elle est bien visible, splendide et orgueilleuse du haut de son éminence, avec ses murailles illuminées par des milliers de torches et de feux de camp, et ses tours qui, bien que moins altières que de le prétend Marlowe, sont néanmoins saisissantes, hautes, solides, exotiques, imposantes. Et il y a les Achéens, les Danaïens, et autres envahisseurs, ce ne sont pas des Grecs à proprement parler, car la nation grecque ne naîtra que dans plus de 2000 ans, mais je les appellerai quand même ainsi, déployés sur des kilomètres le long de la grève. Lorsque j'enseignais l'Iliade, j'affirmais à mes étudiants que la guerre de Troie, en dépit de sa gloire homérique, n'avait sans doute été qu'un petit conflit, quelques milliers de guerriers grecs affrontant quelques milliers de Troyens. Même les mieux informés des membres de la Scolie, ce groupe d'érudits provenant de diverses époques répartis sur 2000 ans, estimaient à environ 50 000 le nombre d'Achéens et autres Grecs à bord de ces nefs noires amarrées le long du rivage. Ils se trompaient. Selon le dernier recensement, on compte plus de 250 000 attaquants grecs et environ la moitié de défenseurs troyens. De toute évidence, tous les héros des îles grecques voulaient être de cette bataille, car bataille signifie pillage, et ils ont fait suivre leurs soldats, leurs alliés, leurs courtisans, leurs esclaves et leurs concubines. Sur le plan visuel, l'impact est stupéfiant. des kilomètres et des kilomètres de tentes éclairées, de feux de camp, de pieux défensifs, des kilomètres de tranchées creusées dans la terre dure surplombant les plages, pas pour s'y planquer, mais pour repousser la cavalerie troyenne, et éclairant ce grouillement de tentes et d'hommes, faisant luire les lances polies et les boucliers étincelants, des milliers de feux de joie, de feux de camp, de bûchers funèbres. De bûchers funèbres. Ces dernières semaines, la pestilence a ravagé les rangs grecs, tuant d'abord les ânes et les chiens, puis terrassant ici un soldat, là un serviteur, jusqu'à devenir une épidémie qui, au cours des 10 derniers jours, a oxy plus de héros achéens et danaïens que les défenseurs d'Ilium en plusieurs mois. Je soupçonne le typhus. Les Grecs penchent plutôt pour la colère d'Apollon. J'ai vu Apollon de loin, ici et sur Olympos, et c'est un type dangereux. Apollon est le dieu archer, le maître de l'arc d'argent, celui qui frappe de loin. Et, bien qu'il soit le dieu de la guérison, c'est aussi celui de la maladie. En outre, c'est le principal allié des Troyens dans ce conflit, et s'il n'en tenait qu'à lui, les Achéens auraient déjà été exterminés. Que cette épidémie soit due à une eau polluée, celle des fleuves où l'on jette les cadavres, par exemple, ou à l'arc d'argent d'Apollon, les Grecs ne se trompent pas en jugeant qu'il ne les porte pas dans son cœur. En ce moment, les seigneurs et rois, et chacun de ces héros grecs est un seigneur ou un roi dans sa province et à ses propres yeux, prennent part à un rassemblement devant la tente d'Agamemnon afin de trouver un remède à cette calamité. Je me dirige vers eux d'un pas lent, presque à contre-cœur, et pourtant, ce moment, venant au terme de 9 ans d'attente, devrait être le plus excitant de tous ceux que j'ai consacrés à l'observation de cette guerre. C'est aujourd'hui que commence pour de bon l'Iliade d'Homère. Certes, j'ai déjà assisté à des scènes que la licence poétique l'avait amené à déplacer dans son récit, ainsi que celles que l'on a baptisées le catalogue des vaisseaux, la description des forces grecques qui figurent dans le chant 2 de l'Iliade, mais à laquelle j'ai assisté il y a plus de 9 ans lors des préparatifs de l'expédition à Aulis, dans le détroit séparant Eubée du continent. Ou l'Épipolésis, la revue des troupes par Agamemnon qui figure dans le chant 4, mais que j'ai vu se dérouler peu de temps après le débarquement de l'armée devant Ilium. Cet événement a été suivi de celui que je décrivais à mes étudiants sous le nom de Theikoskopia, la vue depuis les murailles, lors duquel Hélène identifie les divers héros achéens pour le bénéfice de Priam et des autres chefs troyens. La Theikoskopia se produit dans le chant 3 de l'épopée, mais l'événement s'est en fait déroulé peu de temps après le débarquement et l'Épipolésis. Si l'on peut parler de déroulement des événements. Quoi qu'il en soit, c'est ce soir que nous aurons droit au rassemblement devant la tente d'Agamemnon et à l'affrontement entre celui-ci et Achille. C'est là que débute l'Iliade. Et cela devrait m'amener à mobiliser toute mon énergie, ainsi que tout mon talent, sauf que je n'en ai strictement rien à foutre. Qu'ils prennent des pauses, qu'ils annoncent leur discours, qu'Achille saisisse son épée. Bon, je l'avoue, j'aimerais bien voir ça. Athénée va-t-elle apparaître pour l'empêcher de la tirer de son fourreau, ou bien n'est-elle ici qu'une métaphore du bon sens d'Achille prenant le dessus? J'ai attendu toute ma vie une réponse à ce genre de questions, et je serai comblé dans quelques minutes à peine, sauf que, bizarrement, irrévocablement, je n'en ai rien à foutre. 9 ans d'une douloureuse résurrection et d'un lent regain de la mémoire, 9 ans de constants affrontements et de constantes pauses héroïques, sans parler de ma condition d'esclave des dieux et de la muse, et je n'en puis plus. En cet instant, je serai ravi de voir surgir du néant un B-52 sur le point de larguer une bombe atomique sur les Grecs et les Troyens. Que tous ces héros et leurs chars en bois aillent se faire foutre. Mais je me traîne vers la tente d'Agamemnon. C'est mon boulot. Si je m'abstiens d'observer cette scène et de faire mon rapport à la muse, la peine qui m'attend n'est pas un banal licenciement. Les dieux me réduiront en un petit tas d'os et de cendres d'ADN semblables à celui qui leur a servi à me recréer, et ce sera la fin de mon humble personne.